Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la vulnérabilité en question. Comment la douleur peut participer de la construction de soi? Comment la détresse peut aussi devenir un sujet d'étude? On en parle avec notre invité, l'anthropologue Michel Nappels, directeur d'études à l'EHESS. L'auteur de Conjurer la guerre publie aujourd'hui Dans la détresse, une anthropologie de la vulnérabilité aux éditions de l'EHESS, collection 4 figures, où il écrit avoir voulu s'interroger sur la vulnérabilité et la violence, la pauvreté et la précarité, le capitalisme extractif et la prédation, l'environnement et la reproduction sociale, l'incertitude et l'abandon, la désaffiliation et la solitude. Bonjour à vous, Michel Nappels.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quel était le projet de ce livre ?
Eh bien, dans les sciences sociales en général, dans l'anthropologie en particulier, la question politique ou l'objet politique a d'abord longtemps été beaucoup abordé à travers les institutions, les hiérarchies, les communautés, les structures sociales. Or, l'expérience même de l'enquête de terrain nous confronte à des personnes, à des situations sociales pour lesquelles d'autres angles d'attaque m'ont paru pertinent, la violence, la vulnérabilité, la solitude, la désaffiliation, la tristesse, le traumatisme font partie de l'expérience sociale. Ce sont bien sûr des réalités individuelles, vécues dans le corps et dans l'esprit de chacun, mais dans certaines situations sociales, ce sont des réalités à laquelle de très nombreuses personnes sont confrontées et que l'enquête de terrain, l'enquête ethnographique, comme on dit dans ma discipline, nous permet de rencontrer.
Il y a deux sujets en un presque devant ce livre. Il y a effectivement la question, le thème de la détresse, de la vulnérabilité, mais il y a aussi celle de la démarche de l'anthropologue, des outils qu'il va pouvoir mobiliser pour tenter de cerner, de comprendre son sujet et comment il va le retransmettre derrière. Penser ou repenser la vulnérabilité à travers une réflexion sur la violence, pas simplement du point de vue de la faiblesse, mais aussi sous l'angle des capacités d'action qu'elle offre. C'était important pour vous de ne pas traiter de cette question de la vulnérabilité d'un point de vue victimaire?
Alors, effectivement, il y a ces deux dimensions. Essayer de donner à sentir la réalité du monde, la réalité de la crise, la réalité de la violence que j'ai pu, comme de très nombreux de mes collègues, rencontrer. Et essayer de restituer aussi la façon de la connaître, la façon d'en rendre compte par les sciences sociales, qui sont une des nombreuses possibilité de rendre compte de ces situations. La notion de vulnérabilité est parfois critiquée. C'est une notion qui a beaucoup circulé entre les sciences naturelles, les sciences sociales, la psychologie, enfin les différents types de psychologie. J'ai, en utilisant ce terme, pas souhaité du tout assigner des personnes à une condition de victime, à un statut de victime. Dans une situation de violence, d'agression, et au sens judiciaire, quelqu'un peut être victime de quelque chose, d'une violence physique, d'un viol, d'une agression, d'une destruction matérielle, et le cas échéant, assez rarement en réalité, mais le cas échéant, ça peut donner lieu à des poursuites judiciaires et à la désignation d'un coupable. Mais dans ces cas-là, on est victime de... Et c'est de ce genre de choses que j'ai voulu parler. Ça ne veut pas dire que je considère mes interlocuteurs comme des victimes, dans un sens absolu, comme des personnes dont la caractéristique principale serait d'être en position de faiblesse. Il y a simplement un fait, c'est que dans certaines situations, beaucoup de gens sont confrontés à la violence. Et à ce titre-là, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment ils réagissaient, comment ils vivaient avec ces niveaux de violence, comment ils vivaient avec l'exposition au risque, comment ils vivaient, par exemple, au Congo, avec l'obligation de se déplacer quand des groupes armés viennent détruire leur village et leur récolte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être confronté à quelqu'un qui menace votre vie, votre bétail, vos cheptels, et partir avec rien de chez soi, sans savoir où on va aller, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire, je ne sais pas, les personnes les plus vulnérables sont des victimes absolues et il faut faire reconnaître leur statut de victime. Pas du tout. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être dans un espace social avec de la violence.
Voilà, parce que vous ne parlez pas, vous, Michel Nappels, de la vulnérabilité dans l'absolu. Vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas ethnologue non plus directement, même si vous êtes traversé par toutes ces disciplines, traversé aussi par ces courants de pensée et la littérature, on y reviendra. Vous, vous travaillez comme anthropologue sur un terrain. Ici, il y a deux terrains de recherche qui apparaissent, celui auquel vous avez consacré 20 ans d'une vie d'anthropologue, la Nouvelle-Calédonie, et le Congo, la RDC que vous venez de citer, avec la région du Katanga, où vous avez commencé à vous rendre régulièrement depuis 2011, aux côtés des villageois d'un côté, aux côtés d'une milice paysanne de l'autre, deux situations très différentes. Comment vous pouvez nous décrire en quelques mots ces deux terrains ?
En Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé dans des espaces ruraux, villageois, en m'intéressant à différents types de conflits locaux, d'abord des conflits fonciers sur les terres au moment de la réforme foncière engagée dès les années 80, mais j'ai commencé à y travailler dans les années 90. Et puis plus largement, dans Conjurer la guerre, le livre que vous avez cité tout à l'heure, j'ai essayé de faire plus largement une histoire de la violence et des différentes formes de conflictualité locale dans cette région rurale, dans ces espaces villageois, autour non seulement de la terre, mais aussi des chefferies, des positions de pouvoir administratives ou d'accusations intrafamiliales, notamment d'accusations en sorcellerie, d'assignation, de recherche des causes du malheur, etc. Et j'ai essayé de voir ce que ça faisait à des groupes sociaux que d'être dans des situations comme ça de conflictualité latente ou parfois explosive, de manière durable. Dans le dernier ouvrage, Dans la détresse, je décris comme ça le meurtre d'un de mes interlocuteurs qui est devenu un ami, qui a été tué à Wailou, dans la région où j'enquête, en 2012. Et je cherche à comprendre à la fois le détail du passage à l'acte qui permet de saisir comment s'est déroulé ce meurtre et pourquoi son adversaire lui a tiré dessus, et puis de recontextualiser à la fois historiquement et sociologiquement les sources du conflit. Et précisément, cet ami qui a été victime d'un meurtre lui-même avait eu des relations extrêmement variables avec la violence. Il avait lui-même tué son grand-oncle, il avait empêché un de ses amis de tuer une autre personne dans ces conflits fonciers et intrafamiliaux. Donc voilà, c'est un bon exemple de quelqu'un dont on peut comprendre comment il a été la victime d'un meurtre sans pour autant être une victime absolue, puisqu'il a lui-même interagi de manière multiple. En RDC, à vrai dire, j'ai décidé ce changement de terrain pour sortir de l'étude du conflit et pour travailler sur le retour à la paix dans une région qui avait connu la guerre et une milice paysanne et qui, au moment où j'ai décidé d'aller y travailler, était dans un grand processus de pacification avec des interventions internationales nombreuses d'ONG.
Humanitaires, pour beaucoup.
Et humanitaires, urgentistes, mais aussi de développement plus durable. Et ce projet de recherche a buté sur la réalité qui est qu'un an après mon premier séjour, pour toute une série de raisons que j'essaye d'expliquer, une milice paysanne s'est reformée et s'est remise à perturber les travaux et les jours et à susciter des déplacements contraints, extrêmement nombreux. Dans les régions où j'enquête, on peut estimer à près de 90% la proportion de la population qui a été obligée de quitter dans l'urgence à un moment ou à un autre dans les dernières années, l'endroit où il habitait. C'est énorme et ça suppose effectivement un type de vie sociale marqué par l'incertitude et marqué par la difficulté de se projeter à long terme, tout en ayant l'obligation ou la nécessité de vivre avec l'expérience passée de la violence.
Et ça interroge aussi sur cette expérience commune de la vulnérabilité que vous avez pu éventuellement rencontrer, est-ce qu'il y en a une d'expérience commune à ces deux terrains, à ces deux situations très différentes? Avant d'y venir, j'aimerais qu'on raconte votre démarche, puisque vous prenez aussi le temps dans cet ouvrage, dans la détresse, de raconter comment vous avez procédé. C'est important de savoir d'où vous parlez, et notamment la relation que vous avez nouée avec les personnes rencontrées. Vous êtes dans une démarche d'anthropologue, tout en utilisant des outils de l'enquête ethnographique. Est-ce que vous parvenez, Michel Nappels, à laisser toute votre subjectivité de côté?
Alors non seulement je n'y parviens pas, mais j'essaye pas. Le principe même de ce que j'appelle, enfin de ce qu'on appelle dans ma discipline l'enquête ethnographique ou l'enquête de terrain, c'est très simple, c'est tout simplement d'y aller voir, d'aller suffisamment longtemps partager la vie d'un certain nombre de gens dans une situation sociale et si possible durablement. Partager leur expérience, ça ne veut pas dire qu'on vit comme eux, ça ne veut pas dire qu'on s'identifie à eux, mais ça veut dire qu'on rentre dans des relations d'interaction, donc on fait des choses avec nos interlocuteurs, et puis d'interlocution, on discute avec eux, on les entend parler, on converse avec eux d'une manière formelle ou d'une manière informelle, et c'est l'ensemble de cette insertion qui de longue durée qui permet de constituer un avec eux, avec nos interlocuteurs et nos interlocutrices, un matériau d'enquête qui est ensuite la source du savoir produit. Ça veut dire que ce matériau, il est le produit d'une intersubjectivité, de la capacité que j'ai à construire des liens avec mes interlocuteurs. C'est donc une forme d'engagement nécessaire dans la relation interpersonnelle, intersubjective, qui est à la base du matériau produit. Alors, vouloir effacer notre subjectivité du résultat, ça serait en fait contradictoire avec la manière dont nous produisons notre savoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut raconter n'importe quoi, ça ne veut pas dire pour autant que le savoir qu'on construit, c'est simplement la restitution des émotions vécues au cours de l'enquête. Ça veut plutôt dire qu'on essaye de donner les outils de réflexivité qui permettent de comprendre dans quelles conditions quelqu'un nous a dit quelque chose, ce qui modalise, ce qui permet de saisir le sens de son propos parce qu'il est adressé à l'enquêteur ou à l'enquêtrice, parce qu'il est adressé à une relation. Si j'ai parlé tout à l'heure de cet interlocuteur comme d'un ami, c'est parce qu'effectivement, le type de relation qui s'est construite au fil des années avec lui est devenu une relation amicale, compliquée, mais une relation amicale quand même, qui m'a amené à lui rendre visite au parloir de plusieurs prisons métropolitaines alors qu'il était condamné pour le meurtre que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, je suis pas en position d'observation simplement vis-à-vis de sa vie. J'essaye de comprendre la manière dont il a pu éprouver des situations de violence dont il a été acteur et victime.
Alors sur la question de la bonne distance à avoir par rapport à son sujet ou personne rencontrée, vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, j'ai pas essayé de me prendre pour l'un des l'autre, et c'est l'un des leurs, et ça tombe bien parce que eux-mêmes ne vous ont à aucun moment, quels que soient les liens créés, tissés, pris pour l'un des leurs. Vous êtes toujours resté l'étranger, l'européen, c'est aussi comme ça qu'ils vous regardaient et vous le racontaient. Sur cette question de la bonne distance, je vous propose d'écouter un autre témoignage. C'est pas celui d'un anthropologue ni d'un ethnologue, c'est celui d'un journaliste, Hubert Prolongeau. Il a fait plusieurs enquêtes en immersion. Ici, il parle de son expérience, du temps qu'il a passé aux côtés des 100 000 cils fixes dans la rue, 4 mois sans rentrer chez lui.
SDF, il n'y avait pas vraiment besoin de jouer, mais là aussi, je ne me voyais pas aller dans la posture du journaliste, passer comme ça beaucoup de temps avec eux, et puis leur demander, alors, c'est pas trop dur, enfin, tout en étant moi à côté, donc autant y aller. C'était pas au départ l'idée de se dire, voilà, je vais plonger pendant quelques temps. J'y suis allé un soir comme ça, de manière anonyme, et puis à peine j'y étais, j'ai compris que le seul moyen vraiment de le faire, c'était de continuer cette démarche. Je suis pas rentré chez moi, effectivement, oui, j'ai passé 4 mois comme ça à vivre avec eux, jusqu'à ce que j'ai eu l'impression que les choses se répétaient beaucoup, donc que j'avais un peu atteint le bout et que ce que je pouvais apprendre comme ça, maintenant je le savais. Mais il n'y avait pas au départ ni cette idée de le faire comme un pari, ni de date fixée, ni de voilà, c'était un moyen de les approcher. Et il y a une telle différence entre eux et moi que je me sentais paradoxalement beaucoup plus à l'aise en étant au milieu d'eux comme ça anonyme que je ne l'aurais été dans ma posture de journaliste. En plus, c'est un milieu extrêmement froid, extrêmement indifférent à l'autre, extrêmement, donc là aussi c'était très facile parce que j'avais pas vraiment de rôle à jouer vu que globalement tout le monde se fichait totalement de qui j'étais, de pourquoi j'étais là.
Mais même si vous partiez avec de la bonne volonté qui est de témoigner de leur vie, quelque part il y a pas un malaise de tromper son monde, de jouer personnage.
Il y a deux choses. Il y a d'abord eu là le sentiment très net et immédiat que de toute façon j'étais pas à leur place, que je pouvais partager pendant un moment leur quotidien mais que j'étais pas dans leur tête, que je savais que j'en sortais quand je voulais, que je trimballais pas, moi, cette espèce d'errance, de désespoir qui promène en permanence.
Est-ce que votre démarche à vous, Michel Napel, c'est complètement différente, la position où vous vous tenez par rapport à votre sujet?
C'est une archive extrêmement intéressante. Ce que Hubert Prolongeau appelle l'immersion, c'est ce qu'on appelle classiquement dans les sciences sociales la participation, l'observation participante. En fait, il y a une multitude de dispositifs d'enquête qui sont concevables et qui sont effectivement liés au type de situation sociale auquel on est confronté. J'évoque dans l'ouvrage un travail, une enquête d'un anthropologue brésilien, João Bill, qui a travaillé dans un refuge à Porto Alegre, au Brésil, pour des personnes qui sont au bout de la désaffiliation sociale et parfois dans des conditions de santé mentale extrêmement précaires et où précisément faire un entretien formel, sortir un enregistreur, etc. est à peu près inconcevable. Donc, à partir d'un dispositif qui consiste à aller partager la vie dans une situation sociale donnée, la nature même de cette situation sociale va impliquer des démarches assez variables. Dans les deux espaces ruraux où j'ai travaillé, en Nouvelle-Calédonie comme au Congo, j'ai pu simplement dire qui j'étais, en l'occurrence un chercheur, un enseignant à l'université, venant faire un travail de compréhension d'une situation sociale. Voilà, il y a des gens pour qui cette présentation voulait dire quelque chose, dont d'autres pour qui c'était certainement un peu flou. La différence que j'avais avec quelqu'un d'une ONG, etc., était pas toujours très nette. Mais bien évidemment, le dispositif d'enquête s'adapte à la situation et la forme d'engagement qu'on a, d'insertion dans des relations sociales, constitue un partage d'expérience, nécessairement, c'est ça le fait d'être là, et pour autant, ne veut pas dire qu'on est, comme l'a dit très bien Hubert Prolongeau, dans la tête des gens et qu'on vit ce qu'ils vivent.
Mais d'ailleurs, vous avez cette formule qui est très claire et très belle, Michel Napels, de dire de simples témoins, vous devenez coproducteur des situations par l'engagement de votre corps, de ces échanges qui vont s'installer entre vous. Vous, forcément, vous influez sur la situation et vous co-créez cette situation dont vous allez après tirer des leçons ou des enseignements. Pourquoi les gens se confient à vous? Pourquoi les gens vous parlent?
Et c'est une question extrêmement difficile et que les sciences sociales, pendant longtemps, ne se sont pas posées. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été dans un dispositif où il s'agissait d'aller collecter des informations et il paraissait, aux enquêteurs en tout cas, légitime que les gens leur parlent et pas problématique que les gens leur parlent. Ça, c'est en anthropologie beaucoup fait dans des dispositifs liés à la colonisation où certains anthropologues, on appelle ça parfois l'anthropologie de la véranda, convoquaient en fait des populations colonisées qui venaient parce qu'elles étaient sous contrôle colonial. Bon, pour que quelqu'un me parle, il faut, et pour que la conversation se prolonge, pour que l'interaction se prolonge, pour qu'un lien se tisse, pour qu'un lien durable se tisse, il faut qu'il y trouve un intérêt. La délimitation de cet intérêt n'est pas toujours très claire, ni pour lui, ni pour moi, au début, ni même progressivement.
Ou qu'il en attende quelque chose, ou qu'il en espère quelque chose.
Et cet espoir peut être de différentes natures. Il peut être de très court terme de que en s'interrogeant pour savoir si je vais payer l'interview, l'interaction,
ce que vous faites ou pas.
Embaucher, pardon.
Ce que vous faites ou pas ou jamais.
Non, il m'arrive très fréquemment de remercier les gens en leur offrant à boire. Il m'arrive, j'essaye de faire que le plus possible de ne rien coûter à mes interlocuteurs, de leur faire des cadeaux en partant ou des choses comme ça. Mais le fait de d'avoir une relation contractuelle et payée avec des interlocuteurs est pas inconcevable et en un sens ça clarifie les pour le coup la source de leur intérêt. Tout dépend des situations, tout dépend aussi des traditions disciplinaires nationales et tout dépend des budgets de la recherche dont on dispose, tout dépend de l'envie qu'on a de procéder de cette manière-là. Pour ma part, c'est pas la forme que j'ai utilisée. Du coup, l'espoir qu'ils peuvent avoir est de différentes natures. Ça peut être un espoir de clarification pour eux-mêmes, c'est-à-dire de tomber sur une écoute intéressée et bienveillante, d'un côté. Ça peut être l'espoir de produire du savoir. Ça peut être l'espoir de faire que leurs conditions vulnérables de pauvreté ou de marginalité ou d'inégalité soit restitué et que à travers cette restitution
les choses changent,
les choses puissent changer. J'ai évidemment pas directement ce pouvoir d'aucune manière, mais j'ai aussi de l'espoir que ce que j'écris puisse être lu par des gens que ça intéressera et que ça contribuera peut-être à modifier leur regard sur un certain nombre de situations sociales.
Parole d'anthropologue aujourd'hui dans votre grande table des idées du vendredi avec Michel Nappels, directeur d'études à l'EHESS, qui est avec nous à l'occasion de l'apparition de son nouvel ouvrage essai qui s'appelle « Dans la détresse, une anthropologie de la vulnérabilité » et dont on vous parle jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h17 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Entrons dans cette question de la vulnérabilité, de cette expérience commune que vous avez peut-être pu détecter entre ces différentes situations, ces différents terrains. Peut-être d'abord faudrait-il commencer, Michel Nappels, avec vous, par un effort de définition. Alors si on ouvre un dictionnaire, ou à première vue, on aurait tendance à se dire que la vulnérabilité caractérise ce qui est fragile, ce qui est précaire. Vous faites néanmoins la distinction entre la vulnérabilité et la précarité. Vous pouvez nous expliquer en quoi ces deux notions peuvent différer, en tout cas comment vous les interprétez l'une et l'autre?
Je vais essayer. Je suis pas. Mon objectif principal dans cet ouvrage est pas de clarifier les notions que j'utilise. C'est un peu paradoxal que de dire ça, mais détresse, vulnérabilité, violence, précarité, c'est un champ de concepts dans lesquels j'essaye de circuler, afin de désigner un certain type d'expérience sociale. Alors, précarité, en un sens simple, on pourrait en trouver des indicateurs objectifs, des niveaux de revenus, de patrimoine, d'éducation, de capitaux, de ressources sociales, d'épaisseur de carnet d'adresse, enfin bon. Voilà, on peut définir ça simplement.
Dans ce sens-là, c'est un élément constitutif de l'être humain, c'est-à-dire c'est aussi entre le statut, mais qui est conditionné à la vie matérielle qu'il va pouvoir avoir autour.
Voilà, alors que du côté de la vulnérabilité, on est plus dans un potentiel et dans un potentiel universel d'exposition à la blessure, à la maladie, à la mort, à la violence. Et cette potentialité, en un sens philosophique général, elle est caractéristique de l'ensemble de l'humanité, quelle que soit leur position sociale. Simplement, ma lecture, comme de très nombreuses personnes en sciences sociales, consiste à montrer que ce risque que nous connaissons tous, de traverser des crises, de subir la violence, etc., ce risque que nous traversons tous, il n'est pas également réparti au sein du monde, au sein des mondes sociaux, au sein des situations sociales. C'est-à-dire que l'exposition au risque, elle est quand même socialement extrêmement variable et, par exemple, naître dans un village rural de la République démocratique du Congo ou naître à Paris, Alors évidemment, il faudrait sophistiquer un petit peu la description, mais nous met pas dans des situations d'exposition au risque comparables. Et quand je vais en République démocratique du Congo, je me retrouve exposé à une petite partie des risques que les gens sur place connaissent. Par exemple, quand il y a des troubles militaires ou miliciens, évidemment, je peux partager la peur des gens que leur village soit attaqué ou des choses comme ça. Mais en même temps, je dispose d'une série de ressources, d'assurances, de vaccins, de médicaments, d'argent, de numéros de téléphone qui m'exposent moins que mes interlocuteurs, même si, bien sûr, je peux tomber malade, je peux avoir des accidents de voiture et certainement beaucoup plus là-bas qu'ici. Mais du coup, être une femme, être jeune, être pauvre, être rural, tout ça, ce sont des variables qui font varier socialement la vulnérabilité. Et il est important de restituer ces différences, même si la vulnérabilité est une caractéristique, disons, de l'humanité ou de la condition humaine en général.
Et vous convoquez pour ce faire la philosophe américaine Judith Butler, qui en a une très belle définition de cette idée de vulnérabilité, de dépendance comme condition commune, constitutive de notre monde. Elle écrit « Aucune créature humaine ne survit ni ne subsiste sans la dépendance d'un environnement qui lui assure une assistance, des formes sociales de relations, de formes économiques qui supposent et structurent l'interdépendance. Et il est vrai que la dépendance implique la vulnérabilité à ces formes de pouvoir qui menacent ou diminuent notre existence. » Dans cet ouvrage, Michel Nappels, on voit que vous vous interrogez et vous nous interrogez sur la bonne manière de rapporter la violence. À propos de l'attaque que vous citiez tout à l'heure de 2012 en RDC, vous dites d'ailleurs de ne pas avoir vécu cette attaque, mais connu, rencontré, et je vous cite, la peur de contre-coup imprévisible de cette attaque, la peur dans les mots, dans les regards des autres, dans leur comportement aussi. Je vous propose un autre exemple, celui rapporté par un sauveteur présent sur le bateau de l'Aquarius qui aide les migrants qui sont donc en situation de naufragés dans la Méditerranée. Voilà ce qu'il raconte.
À tout moment, la glace peut se briser.
C'est-à-dire ?
Well, when it goes wrong. Vous voulez dire quand ça tourne mal?
Yeah.
Oui.
Basically, people out here die because.
Généralement, les gens meurent parce qu'ils se font écraser par les autres.
Largely, I mean, the boats sink, and
lorsque le bateau coule, les bidons d'essence commencent par se renverser.
Large, maybe 80 gallons.
On parle de bidons de 300 litres.
Barrels, and they tip. And when the barrels tip.
Et parce que le niveau d'eau dans l'embarcation augmente, les bidons se renversent et l'essence se mélange à l'eau salée. Et avec ce mélange, le premier effet, c'est que les gens commencent à devenir stone, parce qu'ils respirent les émanations de centaines de litres de fuel. Et après plusieurs heures, ça les brûle. Et après de plus longues heures encore, la peau de vos jambes commence à partir. La peau du dos, la peau des bras, et tout votre corps qui est en contact avec ce mélange. Et en même temps, le fond du bateau se rompt. Imaginez ce qui se passe lorsqu'il se retrouve compressé. Tout ça alors que les gens ont de l'eau jusqu'à la poitrine. Ça fait un poids considérable. Tout ça pendant des heures et des heures en baignant dans ce liquide toxique qui brûle la peau. C'est interminable. C'est alors que vous les trouvez. Et il y a des morts qui flottent entre leurs jambes. Les gens que l'on parvient à secourir ont des marques de morsures sur leurs jambes parce que les gens coincés au fond se battent pour éviter la noyade. Et c'est horrifiant. C'est... Et donc, que fait-on dans ces cas-là? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que ça ressemble à l'enfer, je crois.
Témoignage d'un sauveteur de l'Aquarius au micro de Raphaël Kraft pour la série documentaire sur France Culture, Michel Nappels. Comment rapporte-t-on la violence? Et surtout, comment, et on l'entend bien avec ce témoignage, on fait en sorte de ne pas devenir aussi vulnérable ou de ne pas l'être trop devant la vulnérabilité de l'autre?
C'est à nouveau un extrait extrêmement magnifique et extrêmement blessant en même temps parce que ce que fait l'Aquarius est extraordinaire et que les situations décrites par ce sauveteur sont liées aux politiques migratoires européennes ou anti-migratoires européennes. Et il est difficile d'entendre ça sans penser que nous n'y sommes pas pour rien. C'est particulièrement dans mon enquête en RDC que j'ai été confronté à des situations de violence, à des niveaux de violence très élevés. Dans l'interaction de mes interlocuteurs avec les agences humanitaires internationales ou nationales qui sont intervenues à différentes reprises dans la région, le récit de la violence, le récit de la souffrance est un passage obligé pour bénéficier d'un certain nombre de droits. Donc dans mes premières interactions, d'une manière générale, j'avais très très régulièrement des interlocuteurs qui commençaient leurs propos en me disant « on a beaucoup souffert » et effectivement je me suis quelque peu blindé face à un discours pareil en disant « oui, moi je suis pas d'une ONG, je suis pas bailleur, je suis pas donateur, je suis pas employeur, parlons autrement, voilà ». Mais en même temps, je n'ai pas cessé d'être confronté à la réalité de la violence du monde et je cite dans...
De la recevoir, oui. Ouais. De la recevoir aussi.
Oui, absolument. Dans le livre, un extrait d'entretien avec quelqu'un qui avait été otage du groupe armé pendant 2 ans dans des situations d'extrême de violence, de faim, de violence subie, etc. Mais... Par exemple, l'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec un instituteur de Pueto et un jour j'avais rendez-vous avec lui et pour travailler, pour parler de l'organisation coutumière de la chefferie et voilà. Et en arrivant, il me dit on peut pas travailler parce que ma belle-fille vient de mourir et j'ai été très touché parce que sa belle-fille, je l'avais vue quelques jours plus tôt, elle était enceinte, etc. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a eu. Elle m'a dit on sait pas, elle s'est sentie mal, elle est allée au dispensaire et elle est morte. Et en fait, là, on n'est, disons, pas dans une situation de violence politique immédiate, mais c'est ce genre de situation, c'est aussi l'effet d'une extraordinaire inégalité sociale, de ce qu'on appelle parfois la violence structurelle, c'est-à-dire que l'accès aux soins, le suivi médical, les capacités de transport et d'évacuation de quelqu'un qui est dans une situation de grande faiblesse sont extrêmement faibles et sont payantes en plus, donc sont pas dans les moyens. Donc j'ai été confronté à cette réalité toute simple et effrayante que mourir du jour au lendemain sans savoir pourquoi et du coup avoir sa vie bouleversée est une expérience commune pour mes interlocuteurs. Et je sais pas comment dire, je crois pas qu'on puisse se protéger de ça.
Ni les en protéger eux.
Bah malheureusement non, on peut faire que des petits pas, que contribuer à l'information générale, à la formation générale, à l'augmentation, l'accumulation du savoir, et après à l'articulation éventuellement avec des gens dont c'est le rôle et le métier que d'informer éventuellement, que de dénoncer des situations.
On ne peut pas s'en protéger, mais on peut d'une certaine manière s'y préparer. C'est ce que vous racontez aussi dans La Détresse qui paraît aux éditions de l'EHESS, le rôle qu'a joué la littérature, peut-être aussi le cinéma, dans la formation de votre subjectivité. Vous rappelez ces mots de Pierre Bayard, professeur de littérature, qui écrit « L'activité littéraire recherche une voie vers les autres qui passe par le plus intime de soi, car c'est en ayant accès à soi-même que l'on peut faire voyager l'autre et organiser une rencontre des pays intérieurs. » On terminera sur ces mots et je renverrai les auditeurs à la fois vers votre essai, Michel Nappels, mais aussi vers les chroniques, contributions que vous avez pu signer, et notamment 2 passionnantes dans le monde, l'une sur la question des droits de faire payer plus les étudiants étrangers, où vous faites le lien entre le principe d'hospitalité et celui entre université et universalité, très intéressant, et aussi un papier que vous avez signé il y a un an sur le film des le Black Panther, puisque vous faites le lien entre le Katanga qui a été votre terrain de recherche au RDC et ce Wakanda qui a été imaginé pour ce film, avec les utopies qui peuvent être présentées là et la réalité que vous avez pu rencontrer. Un grand merci à vous d'être passé autour de notre grande table des idées. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à toute l'équipe de la grande table, à Maya Neskovic et à Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide précieuse, très précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Eilig avec Élise Le. Très bel après-midi à tous sur France Culture.